Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur, sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet événement public signé Transistor qui ne compte pour le moment pas encore grand monde, mais je ne doute pas qu'avec les inscriptions, la situation va se décanter dans peu de temps. Alors cet enregistrement va lancer notre nouvelle saison et on est ensemble pour deux heures de radio, et pour les occuper ces deux heures, beaucoup de choses au programme. À venir dans les prochaines minutes, en ce moment, le grand journal de la rédaction, suivi à 15h d'Étoiles plein les yeux, votre émission sur l'actualité cinématographique. À 15h15, Biologica Radiophonicus, je n'en dis pas plus, à 15h30, Danse avec les maths, et Transhistorien à 15h45. Mais tout de suite, on commence cet en ce moment par le journal, un journal qui est présenté par Mathias. Bonjour Mathias.
Bonjour Clément. Fermeture de l'usine d'Alstom à Belfort. Le groupe a annoncé vouloir cesser sa production de trains en 2018 sur son site historique de Belfort. Cette annonce intervient alors que le groupe a acquis des commandes importantes de trains à grande vitesse, notamment aux États-Unis. Tous les employés, environ 500, devraient se voir proposer des réaffectations. Cette fermeture a provoqué de nombreuses réactions politiques, notamment de la ministre de l'Environnement Ségolène Royal, qui a déclaré ce matin sur France Inter « Ces annonces brutales sont très étonnantes » et a assuré que le gouvernement suivrait l'affaire avec vigilance. Le maire Les Républicains de Belfort, Damien Mello, s'est dit consterné par une décision qui menace directement près de 400 emplois et qui n'est pas conforme aux engagements d'Alstom. Le candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg a quant à lui fustigé la politique du laisser-faire qui serait celle du gouvernement et a réaffirmé une nouvelle fois sa volonté de promouvoir le « Made in France ». La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a fait savoir par ailleurs sur France Inter qu'elle ne lâcherait pas le dossier des boues rouges qui polluent la Méditerranée. Le dossier oppose actuellement Ségolène Royal au Premier ministre, Manuel Valls, ce dernier ayant autorisé en 2015 la poursuite des rejets polluants de l'usine Alteo de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. À Paris, une voiture suspecte a été retrouvée au cœur de la capitale dans la nuit de samedi à dimanche, et aujourd'hui, un deuxième couple a été mis en garde à vue. Une enquête antiterroriste est toujours en cours. Rappelons que 6 bonbonnes de gaz et des barils de gazole avaient été retrouvés à l'intérieur du véhicule. Aujourd'hui, jeudi 8 septembre, l'intersyndicale menée par le SNES-FSU appelle à la grève pour manifester contre la réforme du collège menée par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Les syndicats dénoncent l'application autoritaire de la réforme. La ministre parle, quant à elle, d'une rentrée apaisée. Elle estime que les établissements réticents à l'entrée en vigueur de la réforme ne dépassent pas les 5 à 10%. Elle a aussi signifié qu'elle ne donnerait pas suite aux demandes de moratoire demandées par certains syndicats. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour François Hollande qui prononce un grand discours sur la démocratie face au terrorisme. Le président, pas encore candidat, laminé dans les sondages par la droite, l'extrême droite et son ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron, doit esquisser aujourd'hui l'idée d'une nouvelle candidature en 2017. On annonce du côté des proches du président un discours de chef de guerre. C'est un discours prévu de longue date, organisé par deux think tanks proches du PS, Terra Nova et la Fondation Jean Jaurès. Le président de la République a notamment déclaré que la démocratie sera toujours plus forte que la barbarie qui lui a déclaré la guerre. Il a aussi rejeté l'idée d'un état d'exception après les propositions d'une législation antiterroriste venue d'une partie de la droite. Et il a aussi rappelé son attachement à la laïcité et à la loi de 1905 en déclarant que l'islam pouvait admettre la séparation de la foi et de la loi. Toujours sur François Hollande, selon un sondage Elab pour BFM TV, une grande majorité des Français, 88%, ne souhaitent pas que François Hollande se représente à l'élection présidentielle de 2017. Hier, un sondage donnait le chef de l'État à égalité avec Jean-Luc Mélenchon, tous les deux à 12% d'intention de vote. Derrière Emmanuel Macron, 18%, Marine Le Pen, 22% et Alain Juppé, 27%. En cas de candidature de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon descendraient à 11% tous les deux, en quatrième position, et Marine Le Pen arriverait en tête avec 26% des intentions de vote. Élection toujours, mais cette fois aux États-Unis, où un dernier sondage donne l'avantage à la candidate démocrate Hillary Clinton face à son adversaire républicain Donald Trump. Cependant, l'écart qui sépare les deux candidats se situe toujours dans la marge d'erreur prévue par les sondages. Toujours à l'international, Alexis Tsipras, le premier ministre grec, a donné un entretien exclusif au journal Le Monde, auquel il a déclaré à propos de la crise des migrants « L'Europe vit une crise profonde, elle est comme un somnambule qui marche vers la falaise ». Le dirigeant grec a aussi réitéré son appel à alléger la dette grecque, affirmant toutefois que les choses s'amélioreraient petit à petit en Grèce. Politique locale cette fois. Gérard Collomb a réuni les soutiens lyonnais de l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron sur une péniche des berges du Rhône, comme nous l'indique le journal Lyon Capital. Le maire de Lyon, premier soutien d'Emmanuel Macron, cherche à mobiliser au-delà de la formation En Marche. Gérard Collomb a d'ailleurs déclaré que la ville de Lyon pouvait être un modèle pour Emmanuel Macron. Je cite « Ce que nous avons fait à Lyon au niveau local, il est possible de le faire au niveau national en étant à l'écoute et en regardant ce qu'il se passe. Et Emmanuel Macron est quelqu'un à l'écoute, car on ne fait rien de grand sans écouter les autres. » Toujours à Lyon, l'Institut Lumière a publié hier la programmation du Festival Lumière du 8 au 16 octobre, qui mettra notamment Catherine Deneuve à l'honneur.
Merci Mathias pour ce journal, et tu ne nous quittes pas, mais tu vas quitter d'ici quelques minutes ce ton un petit peu neutre qui sied au journal.
Alors, avant les au revoir, on a juste le temps de prendre un café et l'addition.
Alors c'est l'heure maintenant du café des éditorialistes. Le café des éditorialistes, c'est simple, c'est bon et c'est convivial. De l'humeur et une revue de presse, et c'est avec l'édito international que nous allons d'abord commencer, un édito proposé aujourd'hui par Léo. Bonjour Léo.
Bonjour Clément.
C'est au Gabon que tu nous emmènes aujourd'hui, Léo, pour cette chronique.
Oui, bonjour Clément et bonjour à tous. Je vous fais voyager aujourd'hui au Gabon, petit pays d'Afrique qui affiche une bonne santé économique sur le papier, mais qui actuellement traverse une crise politique assez importante après les très récentes élections du 27 août. Petit rappel des faits, le poste de président était remis en jeu ce jour. S'affrontaient le président sortant, Ali Bongo, pour un deuxième mandat à la tête du pays, Jean Ping, leader de l'opposition, et 17 autres candidats dans un scrutin à un seul tour. Ali Bongo a été donné gagnant de très peu, à peine 5000 voix face à Ping, ce qui a déclenché de violentes émeutes dans le pays depuis la semaine dernière. Officiellement, ces dernières ont fait 6 morts, mais Ping affirme lui de son côté qu'au moins 50 personnes auraient perdu la vie dans les affrontements de rue.
Pourquoi cette réaction de la part de la population ?
Alors, Ali Bongo a été propulsé à la tête du pouvoir en 2009, après la mort de son père Omar, qui lui a dirigé le pays pendant 41 ans. Son bilan après ce mandat de 7 ans est assez mitigé. Le pays a certes bénéficié d'une croissance exceptionnelle et d'une hausse de son IDH, indice de développement humain, tout aussi élevé, c'est le premier d'Afrique subsaharienne d'ailleurs, mais une grande partie de la population reste dans la pauvreté du fait d'une inégalité de revenus très importante, et la dette du pays a doublé à 40% du PIB. Le pays est riche pour l'Afrique, son PIB dépasse les 10 000 dollars par habitant, grâce à de bonnes ressources naturelles toutefois protégées, mais son infrastructure reste désastreuse. Routes endommagées et non goudronnées isolant les campagnes, hôpitaux débordés, structures bancaires déficientes, investissements faibles aggravés par la chute du cours du pétrole. Le Gabon est ainsi paradoxalement dans un état d'incertitude économique importante, exaspérant une grande part de la population. Mais c'est la situation politique du pays qui reste le principal détonateur de ces émeutes.
Et pourtant, ces élections semblaient bien démocratiques.
En fait, le Gabon a pendant longtemps été ce qu'on pourrait appeler un régime autoritaire modéré. L'opposition, bien qu'existante, n'avait pas de voix très portante et était associée fortement au pouvoir par des délégués venant de tout le pays et de toutes les ethnies, évitant ainsi les conflits interethniques sanglants qui ont frappé ses voisins. Parallèlement, un système clientéliste assurait une redistribution vers le bas d'argent et de produits courants aux populations locales très médiatisées, contre bien entendu des espoirs de vote pour les généreux donateurs à la fortune amassée sur des montages financiers parfois douteux. Ce système fut torpillé par Ali Bongo au cours de son mandat. Il n'est d'ailleurs pas éligible selon la Constitution, ce qu'il a royalement ignoré, et plusieurs de ses adversaires ont été déboutés de leur candidature, par ailleurs extrêmement coûteuse. Il fallait environ 30 000 euros pour se déclarer candidat.
Ah oui, quand même.
De plus, son contrôle sur l'appareil d'État a renforcé les craintes de voir un régime familial naître, comme dans beaucoup d'autres pays africains, ce que la jeunesse du pays ne veut pas, renforçant encore plus l'ambiance électrique dans laquelle se sont déroulées ces élections.
Et quelle est la situation maintenant ? Est-ce que les élections vont être invalidées ?
Alors, Ping et Bongo se sont déclarés vainqueurs dans la soirée du 27 août successivement, déclenchant immédiatement de fortes émeutes dans les deux plus grandes villes du pays, Libreville et Port-Gentil. La confusion fut renforcée suite à des rumeurs selon lesquelles le QG de Ping avait été encerclé par la garde présidentielle qui avait arrêté un ressortissant ivoirien. Libreville a ainsi connu des scènes de pillage et de guérilla urbaine avant que la police et l'armée ne quadrillent la ville sous couvre-feu. Plus d'un millier de personnes ont été arrêtées, tandis que le pays connaît une coupure totale de ses connexions Internet jusqu'à encore aujourd'hui. Aucun journal, même ceux très proches du pouvoir, n'est paru depuis le 27 août. Alors que le parti au pouvoir refuse toute vérification des voix, arguant que cette procédure n'est pas inscrite dans les règles d'élection, l'opposition, par la voix de Ping, appelle, elle, à un recomptage intégral, surtout après l'annonce d'étrangeté par les observateurs internationaux.
Le scrutin a donc été entaché de fraude.
De très fortes suspicions pèsent en effet sur le président sortant, avec une anomalie très importante dans une des 9 provinces du pays, le Haut-Ougoué, province natale des Bongo. Je précise, ce n'est pas le BDE 2013 de l'ENS. Hein.
Ah oui, une bonne précision.
Première chose, les résultats n'y ont pas été annoncés publiquement. Deuxième point, alors que la participation moyenne du pays s'élevait à 48%, elle a atteint là-bas, tenez-vous bien, 99,93% favorable à 95% au président sortant.
Ah oui.
Assez pour lui donner la tête au niveau national, 49-80 contre 48-23, et emporter l'élection comme de par hasard. Alors, l'Union africaine a proposé une médiation et l'envoi de délégués pour tenter de calmer le jeu, mais aucune solution au blocage ne semble en vue pour l'instant.
Alors, merci Léo pour ce voyage au sud en Afrique. Et après l'édito international, c'est Mathias que l'on va retrouver. Un Mathias dont l'humeur politique est un petit peu acerbe en cette rentrée 2016.
Française, français.
Le débat d'aujourd'hui portera sur la politique. La politique, comment, pourquoi et quand.
Moi, président de la République,
au revoir.
Rebonjour Clément. Clément, as-tu suivi l'actualité politique française cet été?
Non, j'ai dormi cet été.
Bah oui, évidemment, comme tous les Français, après de longs mois de vacances bien mérités, vous avez tous noyé votre ennui dans l'alcool et n'avez sans doute pas prêté attention à l'actualité politique française.
Ça, c'est Marie dans l'alcool.
Oui, c'est Marie. Je me sens l'obligation... Ne fais pas cette tête, Marie, je te connais. Je me sens dans l'obligation de vous mettre à jour. Et oui, parce que la question qui vous brûle les lèvres, c'est que s'est-il passé dans la vie politique française ces dernières semaines? Nous avons d'abord eu droit au grand débat public du mois de juillet. L'unique querelle qui mêlait santé publique, sécurité intérieure et nouvelles technologies. S'agissait-il d'une énième affaire d'écoute téléphonique à l'échelle internationale? Mais que nenni! Et que nenni! Une affaire de la plus haute importance, Pokémon Go. Le nouveau jeu sur smartphone a déclenché une vague d'interrogations et de commentaires, tous plus intéressants les uns que les autres, je vous assure.
Ah.
Le mois d'août nous a montré un accroissement de la conscience politique française. Un débat serein et sensé a été lancé sur un enjeu majeur de la sécurité intérieure. Ça, quelqu'un dans la salle? Le burkini, oui, on a une gagnante. Quoi, vous pensiez que le burkini n'était qu'un sous-sujet de conversation de comptoir dans un PMU de campagne, fait pour sortir de leur ennui profond des journalistes estivaux? Mais non, vous avez tort. Il s'agit de l'essence de la France. Selon Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi, Eric Ciotti, Emmanuel Valls. Bref, je vous laisse juger. Je tiens quand même à rappeler la réponse assez intelligente de Cécile Duflo, Marisol Touraine et Najat Vallaud-Belkacem, seule femme politique à peu près sensée dans ce mois d'été un peu survolté. Bref, soyons un peu sérieux. Le débat politique de cet été a été pourri de l'intérieur par des enjeux mineurs, au mieux, et délétères, au pire. Gageant sur l'imbécilité des Français, trop occupés à se dorer la pilule qu'à réfléchir au bien commun, nos personnalités politiques s'en sont données à cœur joie pour déverser leur bile sur la place publique. D'autant plus qu'un certain homme politique en a profité pour annoncer son retour dans l'arène nationale. Et c'est là-dessus que je terminerai cet édito un brin agacé. Il s'agit bien sûr, vous l'aurez deviné, de Nicolas Sarkozy, qui n'est pas à un mensonge près dans sa carrière politique. Après avoir annoncé son retrait de la vie publique en cas de défaite en 2012, il se relance finalement pour la campagne de 2017, après 2 ans de faux retours en politique, de vrais faux retours en politique. Le président de Les Républicains a essayé de créer une sorte de suspense dramatique autour de son retour, mais était-il jamais parti? Après avoir essayé de nous faire croire qu'il avait changé, sans définir comment ni pourquoi. Bref, candidat vainqueur en 2007, candidat défait en 2012, Nicolas Sarkozy revient en demi-teinte. Il n'est plus vraiment apprécié dans aucun sondage et, au grand drame, il est obligé de se soumettre à l'exercice de la primaire de la droite et du centre.
qui en fait ressemble plutôt à une primaire de la droite, vu que le centre a décidé de ne pas y aller. Certains pensent déjà que Nicolas Sarkozy chercherait à détruire cette élection en interne, d'abord en confisquant le débat, et faire en sorte que la frange la plus modérée des électeurs de centre-droit n'aille pas voter, réduisant ainsi mathématiquement la base électorale de la primaire à ceux qui seraient plus enclins à voter pour un candidat comme Nicolas Sarkozy. Paris risqué, d'autant plus que très récemment, vous ne serez pas sans l'oublier, le parquet de Paris a demandé le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel pour l'affaire dite Big Malion, que certains renomment déjà l'affaire Sarkozy. Oh, il s'agit juste d'un détournement d'argent, de corruption et de délit d'initié. Rien de grave dans la vie politique française.
D'à peu près 18 millions d'euros, une baguette.
Mais oui, mais dans la vie politique française de ces 50 dernières années, c'est une goutte d'eau.
C'est vrai que c'est plutôt courant.
Face à Chirac, c'est un petit joueur. Hier, France 2 n'a pas diffusé le reportage d'Envoyé spécial piloté par Élise Lucet qui portait sur l'affaire Big Malion et l'ombre de l'ancien président de la République plane sur cette décision. Rappelons que dans son livre « Tout pour la France », l'ancien chef de l'État s'en était pris à la journaliste Élise Lucet du service public qui s'en prenait un peu trop à lui à son goût. Bref, débat nauséabond. Personnel politique inchangé depuis plus de 20 ans et accroché à leur poste par ambition personnelle, car oui, ne leur parlez pas de destin, c'est un peu défait. Pratiques suspectes quand elles ne sont pas illégales. Bref, je crois qu'il est temps de vous souhaiter une bonne rentrée 2016.
Merci Mathias pour cet édito et on te sent un petit peu énervé et ennuyé. Alors pour terminer ce café des éditorialistes, on va rester dans l'actualité avec la revue de presse du jeudi 8 septembre.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper-revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et dans la presse aujourd'hui, c'est la rentrée. Ce matin à Paris pour François Hollande, pour nous à Transistor, pour les M2 qui s'inscrivent aujourd'hui à l'ENS, et le monde prend note de cette rentrée estudiantine, puisque le numéro d'aujourd'hui comprend un supplément éducation qui vise, je cite, à nous donner les clés de la vie étudiante. Alors, pas d'article cette année pour nous dire que les classes préparatoires créent des zombies dépressifs, ce qui change un petit peu de la ligne éditoriale du journal, mais des articles de fond. On y apprend ainsi qu'en L1, le tutorat par un élève plus âgé, qui vous aide à faire vos dissertations et vos fiches, eh bien augmente les chances de réussite. On y apprend aussi que voir le bébé quitter le milieu familial, eh bien c'est très dur pour les parents. Du fond donc, je disais, dans ce supplément éducation.
Tu ne veux pas plutôt nous parler de la rentrée de François Hollande ?
Oui, alors le président de la République donnait aujourd'hui un grand discours dont tu nous as parlé dans ton journal, et toute la presse considère qu'il s'agit du discours de la dernière chance pour lui, puisqu'à 3 mois de sa déclaration de candidature, François Hollande est toujours aussi impopulaire. Le Figaro considère que le président joue quitte ou double, et cite un conseiller de l'Élysée, celui-ci expliquant que le discours de ce matin est un discours de cadrage, voire même de politique générale, rien que ça. Et le journal détaille le dispositif. Étaient présents ce matin une 20aine de ministres et 100aine de parlementaires. En gros, le président montre ses muscles et il en a bien besoin. Dans l'opinion, le quotidien libéral, Christian Delporte, historien spécialiste de la communication politique, est extrêmement sévère avec François Hollande, en considérant que sa fonction est, je cite, « le seul prestige qui lui reste » et qu'il n'a jamais réussi à se présidentialiser. La faute, entre autres, au quinquennat qui réduit considérablement le tempo politique.
Et puis avec Arnaud Montebourg qui l'a doublé sur sa gauche et Macron qui l'a doublé sur sa droite.
Oui, et il n'y a pas que François Hollande qu'Emmanuel Macron embarrasse, puisque sa posture politique de dépassement du clivage gauche-droite crée beaucoup de remous chez les centristes, si tant est que les centristes puissent encore remuer quelque chose, bien sûr. Alors l'opinion s'intéresse à François Bayrou, qui attend que le ballon Macron se dégonfle un petit peu et rage de se faire piquer son slogan « ni droite ni gauche », tandis que Jean-Christophe Lagarde, le très célèbre président de l'UDI, lui, tend la main à l'ancien ministre de l'économie. Mais en faisant cela, d'après le Figaro, il vexe des gens de son camp comme Hervé Morin, ancien ministre de la Défense et tristement célèbre président de la Nouvelle-Normandie. Hervé Morin fait en effet partie de ces gens qui considèrent que le centre est avant tout de droite. Vous n'y comprenez rien ? Eh bien moi non plus à vrai dire.
Mais tu pourrais pas nous parler d'un truc un peu plus fun que les centristes, s'il te plaît, Clément?
Oui, si, dans la presse aujourd'hui, il y a aussi les correctifs budgétaires à venir. Alors Libération fait sa une sur la baisse d'impôts promise par François Hollande à quelques mois de la présidentielle. Un dernier geste pour la route, mais c'est un petit peu, là aussi acerbe, impôts, pari perdu. Le journal juge sévèrement le bilan économique de la gauche au pouvoir. Si les entreprises ont pu profiter de la politique menée, ce n'est pas le cas des ménages ni de la croissance. Alors le vice-président socialiste de la commission des finances de l'Assemblée défend dans le même journal la politique du quinquennat. quinquennat, expliquant qu'au contraire, cette politique a été redistributive. Malicieusement, juste sous cette interview, le journal reproduit l'évolution de la courbe du chômage, qui plafonne aujourd'hui à 9,6%. Et il y a d'autres mesures que ces baisses d'impôts dans le correctif budgétaire à venir, puisque cette baisse d'impôts s'accompagne d'une hausse du budget du ministère de la Défense. Alors baisse d'impôts, hausse de budget, ne cherchez pas la logique, il n'y en a pas, si ce n'est la logique sécuritaire liée au contexte actuel. Le budget de la Défense devrait dépasser les 35 milliards d'euros, après une baisse à 31 milliards ces dernières années. Alors que 33 000 suppressions de postes étaient prévues entre 2015 et 2019, elles ne seront plus que de 6 000 postes, d'après Le Monde. Alors, je suis désolé de vous assommer avec ces infos techniques, mais l'actualité en ce 8 septembre n'est malheureusement pas très palpitante. Une info plus intéressante, dans le Figaro, ce n'est pas commun, c'est aujourd'hui que Laurence Rossignol lance une série d'actions contre le sexisme, avec autour d'elle des personnalités issues du monde de la culture, du sport et des médias. Le journal rappelle des statistiques assez effrayantes, une femme sur deux déclare avoir changé sa manière de s'habiller pour éviter des remarques sexistes, et 40% d'entre elles auraient renoncé à fréquenter certains lieux publics. Et Libération, lui, nous gratifie en dernière page d'un portrait de femme, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Alors si vous avez aimé sa bonne humeur et ses remarques coquines sur D8, sachez que vous pourrez la retrouver sur RMC toute cette saison. Enfin, une petite question que j'aimerais vous poser. Clémence, Mathias, Aurore, est-ce que vous aimez prendre le TGV ? Oui ?
Plus que bus.
Et oui. Vous le prenez, le TGV ?
Oui.
Eh bien, vous serez très heureux d'apprendre que l'État a passé commande à Alstom d'une nouvelle génération de TGV, c'est ce qu'on lit dans Libération, des TGV pouvant accueillir jusqu'à 700 passagers contre 500 actuellement, mais hélas, sans voiture-bar.
Non, non.
Voilà, bon, je suis sûr que vous êtes tous extrêmement déçus de ne plus payer votre sandwich Monoprix à 10 euros, mais bon. C'est l'actualité de la rentrée, une actualité de ce jeudi 8 septembre qui n'est vraiment pas palpitante. C'est pour ça qu'on va en terminer avec cette partie actualité, parce qu'en ce moment, c'est un journal en deux parties. Alors la première partie est sérieuse et orientée à l'actualité, la seconde l'est un peu moins. Et en ce moment, c'est aussi de la culture, et pour ça, c'est l'heure du journal de la culture de Clémence. Bonjour Clémence.
Bonjour Clément, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier journal de la culture de la saison. Alors ça y est. Les vacances sont terminées, fini les balades en bord de mer, retour au quotidien. Mais pas de regrets, comme chaque année, le mois de septembre apporte avec lui son lot d'ouvrages à apprécier après vos longues journées de labeur. C'est l'Académie Goncourt qui, la première, vous aiguille depuis mardi en vous proposant sa liste de romans en lice pour l'obtention du prestigieux prix Goncourt. Tous les grands noms de la rentrée littéraire sont au rendez-vous. Karine Thuy, auteur de L'Insouciance, Yasmina Reza avec Babylone, Laurent Mauvignier avec Continuer, Régis Geoffrey avec Cannibal et Jean-Paul Dubois avec Succession. Seul absent de cette liste, pourtant salué par la critique, Serge Joncourt, dont le livre « Repose-toi sur moi » n'est pas inclus dans la sélection de l'Académie.
Serge Joncourt, célèbre membre de l'équipe des Papos que nous avons pu accueillir ici à l'ENS l'an dernier pour un enregistrement que vous devez pouvoir retrouver en ligne quelque part sur France Culture.
Tout à fait Clément. Donc, petit coup de publicité. Donc tous les grands noms de la rentrée sont au rendez-vous, et je me répète, concernant toujours les sorties littéraires, Harry Potter a également fait sa rentrée ce mardi 6 septembre avec la sortie de 3 e-books consacrés à l'univers du jeune sorcier. Près de 10 ans après la sortie du 7e et dernier volet de la saga, l'auteur britannique n'en a toujours pas terminé avec l'univers fantastique d'Harry Potter, et nous propose un ensemble de 3 nouvelles détaillant un peu plus, car on a toujours besoin de plus de détails, le monde fascinant d'Harry. Alors Poudlard, le guide incomplet et peu fiable, nouvelle de Poudlard sur le pouvoir, la politique et les fichus esprits frappeurs, nouvelle de Poudlard, sur l'héroïsme, les épreuves et les passe-temps dangereux, voici les 3 titres que vous pourrez bientôt tenir entre vos mains si vous décidez de vous procurer ces nouvelles. Il ne vous en coûtera que 3 euros par e-book. Une bonne nouvelle donc pour les fans de la saga, déjà ravis par la parution à Londres de la pièce Harry Potter et l'enfant maudit, dont le script sera disponible en français à partir du 14 octobre prochain.
Et des chiffres sur les e-books, puisqu'on en parle.
Clément, puisque nous parlons d'e-books, des chiffres sont tombés la semaine dernière. Selon une étude publiée par le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes de livres dans les librairies américaines ont augmenté pour ce semestre 2016 de 6,1%. C'est une hausse importante et symbolique pour l'industrie du livre imprimé, puisque, rappelons-le, le livre papier a connu une période plutôt difficile entre 2009 et 2012, avec l'installation et le progrès des ventes de livres numériques. Et alors, petite anecdote, On expliquerait en partie ce nouvel essor du livre papier par l'arrivée sur le marché de coloriage pour adultes. Pourquoi pas? Bon, si vous n'êtes pas très branché lecture, vous trouverez tout de même de quoi vous occuper avec l'arrivée, ce 14 septembre, de la 17e édition de la Biennale de danse à Lyon. Une biennale qui se veut cette année à la fois populaire et expérimentale, selon les dires de Dominique Hervieux, la directrice artistique de la biennale. En parallèle, une grande exposition sur l'histoire de la danse sera organisée au Musée des Confluences pendant toute la période de la biennale. De quoi initier les plus curieux et leur permettre de décrypter le monde de la danse et d'en jouir en toute simplicité, tout en appréciant l'hétérogénéité d'une scène alliant danse de club, chants polyphoniques médiévaux et non diphoniques, contre-culture jamaïcaine et bien d'autres ingrédients pour un cocktail rythmé et haut en couleur. Autre alternative pour les plus pressés qui ont envie de se remettre à la culture dès maintenant, alors dès ce soir à 20h30, pourquoi ne pas faire un tour au Théâtre Lyonnais de l'Improvidence pour assister au spectacle d'improvisation Casting. Alors ce spectacle, décomposé en deux parties, propose d'abord aux spectateurs de vivre le processus de création d'un film via son casting, après quoi l'intégralité du film est jouée par les comédiens, jusqu'au générique de fin. Et alors comme c'est de l'improvisation, on pourra aussi bien assister à un blockbuster de science-fiction qu'à une comédie musicale. Donc dans un registre un peu moins léger et plus engagé, pour ne pas laisser de côté une facette de l'actualité culturelle qu'on ne saurait ignorer, le photographe Aris Messinis a été primé le samedi dernier lors du Festival international du photojournalisme Visa pour l'image, précisons, de Perpignan. Et le photographe a été récompensé pour son reportage sur l'arrivée massive des réfugiés sur l'île de Lesbos, en Grèce. A noter donc que l'exposition se poursuit jusqu'au 16 septembre.
Une exposition à ne pas manquer donc si on en a l'occasion. Merci Clémence pour ton journal de la culture, le dernier des journaux de cet en ce moment. Et comme dans tout journal qui se respecte, eh bien j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est l'heure de la météo, une météo qui sera présentée par la très madrilène Aurore. Bonjour Aurore.
Bonjour Clément, bonjour à tous.
Seigneur météo, on nous dit qu'il fait beau. Seigneur météo, oh là là, quel frigo.
Ici Madame Soleil qui vous parle. On ouvre ses chakras, on respire. Imaginez donc un paysage apaisant. La montagne Sainte-Victoire au loin, entourée de lavande se mouvant au gré du vent, ou bien l'imposante et chatoyante architecture du site Mono, avec sa fontaine en fonctionnement 6 jours par an, généralement en septembre, pour impressionner les primo-arrivants béats devant l'éclat des murs bétonnés, devant la somptuosité de la Mérieux quand ils parviennent à la trouver. Parce que je dois vous le dire, personnellement, ça fait bien 3 ans que je la cherche sans jamais tomber dessus. Et pourtant, j'en ai envoyé des mails au BDE. Oh là, faut voir comment qu'on est reçu, hein. C'est pas joli, mon bon monsieur, c'est pas joli. On croit qu'on est dans une école de rêve et finalement, au moindre faux pas, clac, dans le bec. Enfin.
Dans le bec de qui, ça c'est la question.
Je m'égare, Clément, je m'égare.
Oui, tu t'égares.
Ce qui importe, là, maintenant, est votre détente. Respirez. Sentez tout votre corps se détendre. Posez les deux pieds en canard, c'est la chenille qui se prépare. Secouez le bas des reins et faites coin-coin. Voilà, la détente est optimale. Nous pouvons donc passer au cœur du sujet, à ce que vous attendez tous avec impatience depuis le début de ce direct. Impatience qui n'a d'égal évidemment pas votre curiosité malsaine à vouloir voir nos cordes radio. Ce temps que vous désirez est venu. Il n'est pas celui des cathédrales, non, mais bien de la sacro-sainte météo. Ne vous excitez pas trop, restez calme, évitons la cohue, je signe les autographes après. Je m'abstiendrai, évidemment, de toute blague transphobe, non pas comme ma consoeur de canal, pour vous délivrer de l'attente insoutenable. Oui, mesdames, messieurs, oui, dans cette salle, il fait beaucoup trop chaud. Oui, nous étouffons de chaleur sous 32 degrés, et plaignons-nous au président de Transistor dont les vapeurs de sexapile percent la couche d'ozone. Blâmons-le du réchauffement climatique. Condamnons toute l'équipe de Transistor pour ses températures caniculaires, car c'est à cause d'eux et de leur swag éclatant que Lyon rayonne. Lyon ? Que dis-je ? La France entière ? Vous ne trouverez aucun refuge, aucun asile, aucune tanière pour vous protéger de cette chaleur caliente qui envahit les ondes. Enfin, si, vous pouvez toujours aller en Auvergne. Aurillac se les pèle sous 22 degrés et sous des pluies éparses. Enfin, qu'attendre d'autres du Cantal. Ou alors, vous pouvez toujours rejoindre le fief de notre cher président, monsieur Hollande, Tulle, où le temps qu'il fait est à l'image de sa popularité actuelle. Des averses sous un ciel gris. La Corrèze, c'est plus que c'était, si jamais ce fut quelque chose. Non, vraiment, ce n'est pas folichon comme région. Vraiment pas. Vaut mieux rester à Lyon, vous savez, et se détendre dans la chaleur des ondes de Transistor. Allez, viens Transistor, on est bien. Bonne rentrée à tous et à vous les studios.
Merci Aurore pour cette météo. Et alors, il y aura une deuxième météo tout à l'heure, mais on entendra une autre voix puisque ce sera Baptiste qui est ici. Mais après la météo, normalement, c'est l'éphéméride. Mais je dis bien normalement parce qu'à Transistor, on aime bien faire les choses autrement. Alors, puisque c'est comme ça, on vous propose le billet d'humour de Nicolas. Voilà.
Merci Clément. Justement, de toute façon, mon billet d'humour a déjà été bien introduit par la météo de ma consoeur Madame Soleil. Mais moi, personnellement, je vous avoue, j'ai eu un peu de mal à trouver le sujet pour ce billet. J'ai d'abord pensé à vous raconter mon dernier séjour au ski. Vous savez, il y a de quoi rire, mais ce n'est plus la saison. Ensuite, bon, par association d'idées, j'ai voulu faire un billet sur les extinctions de voix. Vous savez, vous êtes derrière le micro et puis vous commencez à... Mais je me suis dit que ça n'allait pas beaucoup plaire à Clément.
Non, pas vraiment.
Bon, heureusement, il s'avère qu'en ce moment, à Transistor, il y a un sujet qui déchaîne les foules. Et il s'agit tout simplement du contenu du studio mobile. Parce que un ou une donateur-trice mystérieuse, Pauline Clodo, trésorière de Transistor.
actuellement portée disparue, aperçue pour la dernière fois quelque part dans les Balkans il y a un mois.
Si vous la voyez. En tout cas, cette personne a laissé tout un tas de choses avec notre matériel, dont je sais que vous allez être aussi surpris que moi, des marque-pages. Moi, les marque-pages, ça me fascine. Je voue un culte aux marque-pages. Dès que j'en vois un quelque part, je le prends. Parfois, j'entre dans des librairies juste pour regarder les marque-pages. Il y en a toujours que j'ai jamais vu. Un jour, je créerai ma propre série de marque-pages avec Christine and the Queens. Bon, je suis pas tout à fait sérieux, mais il y a des gens comme ça. D'ailleurs, la collection de marque-pages ou de signés a un nom. Il s'agit de la signopaginophilie. Et vous l'aurez remarqué comme moi, dans signopaginophilie, il y a deux G, comme dans agrégation, ganglioneuroblastome, gargantuesque ou encore gigolo. Mais ce n'est pas tout. Tous les ans, près de Dunkerque, a lieu le très fameux salon international du signé, où des centaines, que dis-je, des milliers de signopaginophiles se réunissent pour échanger, admirer, proposer des marque-pages. On vit vraiment une époque formidable. Alors, signe des temps également, on peut en ce moment trouver dans le studio mobile une véritable lampe de luminothérapie. Et en parlant de soleil, j'ai pas encore préparé mon éphéméride de tout à l'heure, mais je peux déjà vous dire que le soleil se lèvera en début de matinée et se couchera en fin d'après-midi. Notez bien ça dans vos agendas.
Merci Nicolas. Et pour finir d'y voir un peu plus clair, on y avait un peu plus clair sur la météo, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans nos âmes et dans nos corps. Avec Baptiste, qui va se faire un vrai plaisir de vous révéler l'avenir. Ça fait à peu près 3 nuits qu'il travaille sur son horoscope de rentrée.
Minimum.
Dans mon horoscope, il y a des chômeurs. Dans mon horoscope, il y a des moches. Des très moches. Dans mon horoscope, amour, ça dépend. Travail, ça dépend. Ça dépend.
Bon, il n'y a pas que des gens moches dans mon horoscope, hein, on est d'accord. Je commence avec le bélier. Bon, vous commencez bien cette année, malgré quelques récentes frayeurs. Les sourcils non épilés du prof que vous êtes censé regarder plus de 30 heures cette année, le prix du café qui a augmenté de 10 centimes, ou encore l'absence de Nabila aux élections présidentielles. Rassurez-vous, les choses vont s'arranger rapidement. Taureau. Bon, je ne répète jamais assez, mais taureau, c'est vraiment le meilleur des signes. Attendez-vous à une année merveilleuse, remplie de joie, de beauté, de chance, de sexe et d'accomplissement personnel. Oui, les taureaux, c'est votre année. Et je dis pas ça parce que c'est mon signe. Hein. Gémeaux. Ah les Gémeaux, mais quel malheur de ne pas être né un mois plus tôt. Quelle idée de vouloir rester aussi longtemps dans le ventre maternel. Votre année sera simplement ok, sans grand plus quoi. Mais difficile de briller lorsque l'on suit l'étoile la plus éblouissante. Cancer. Bon, c'est l'heure de la résolution du mystère de l'horoscope. Pourquoi votre signe, dont vous êtes si fier, est aussi le nom d'une maladie pas vraiment cool? Bon, même si je sais pas s'il existe des maladies vraiment cool. La réponse viendrait du fait que cette maladie a des veines étendues de tous les côtés, de même que le crabe à deux pieds. Donc cette année, je vous prédis la pousse de nouveaux pieds. Lyon, graou-graou les lyonnais, une année saignante vous attend, remplie de steak tartare et de carpaccio pas cuit au rue Monod. Vierge, je vous promets une vie sexuelle très remplie. Ce n'est pas parce que vous êtes vierge que vous devez rester puceau ou pucelle. Hashtag Jeanne d'Arc la catin. Balance. Décidez-vous les balances. La vie n'est qu'une succession de choix. Swipez à droite ou à gauche sur Tinder. Prendre la team bleue, rouge ou jaune sur Pokémon Go.
Bleu.
Ou encore crème brûlée ou mousse au chocolat. Voilà ce qui vous attend. Scorpion, c'est votre heure de gloire. N'hésitez pas à profiter de cette année pour briller, tout comme vos compagnons scorpions, comme Stéphane Bern, Christina Cordula, Hillary Clinton ou Katy Perry. Sagittaire, amour, 3 étoiles. Santé, 2 étoiles. Argent, 4 étoiles. Soleil, 1 étoile. Hôtel, 5 étoiles. Capricorne, je suis au regret de vous annoncer que votre signe est rejeté par tous. Sérieusement, on dirait un raccourci pour caprice de licorne. Capricorne, vous valez mieux que ça. Cette année, soyez une vraie licorne au moins. Verseau, recto, versal, rectal, versum, rectum, révélez votre autre côté. Poisson, prenez votre destin en main les poissons. Ne soyez pas cette pauvre sardine subissant l'humiliation constante d'être honorée uniquement par Patrick Sébastien. Assumez-vous, soyez un poisson volant survolant gracieusement les remous de la vie. Un requin qui n'a pas peur de mordre la vie à plein temps, ou encore un Magikarp n'attendant que de révéler son potentiel. Merci.
Merci Baptiste. Alors j'espère que votre horoscope ne vous déçoit pas trop. Hein, Léo, je sais pas.
Apparemment, j'ai gagné des pieds cette année, donc bon, ça peut être utile, je sais pas.
Nicolas ?
Il faut que je me décide, mais je sais pas entre quoi et quoi encore. Il faut que je me décide pour ça.
D'accord. Et Steven, un avis sur ton horoscope ? Toi, t'es quel signe ?
Je suis poisson.
Ah, t'es content de...
Ouais, je prends mon envol, c'est cool.
C'est très bien, loin de Patrick Sébastien. Alors en tout cas, merci Baptiste pour cet horoscope. Il est 14h35, oui pardon, sur Transistor. Et justement, Steven, tu t'es installé avec nous en plateau pour nous parler d'une nouvelle association à l'ENS de Lyon. Vous l'avez sans doute vu sur les chaînes de rentrée. Il s'agit d'Arc-en-Ciel qui se définit comme une association queer, si je comprends bien. Et donc t'es là pour nous en parler un petit peu. Alors qu'est-ce que c'est qu'Arc-en-Ciel ?
Ça résulte de beaucoup de conversations au foyer ou en cafette ou dans d'autres lieux de l'école, par exemple le petit couloir là à côté. En fait, c'est venu de la volonté de justement représenter la pluralité des genres et des sexualités à l'ENS qui n'était pas fait dans le milieu associatif et seulement dans le milieu académique avec le laboratoire junior généré. Du coup, il y avait cette volonté-là de prendre les choses en main parce que, même si à l'ENS, ce n'est pas vraiment un milieu très réticent aux sexualités différentes, aux genres différents, il y a quand même le fait de se cacher derrière l'excuse de « il n'y a pas de problème avec ça, du coup, on ne bouge pas » et à un moment, il fallait bien que quelqu'un mette les pieds dans le cambouis et... Non, ce n'est pas la bonne expression. les deux pieds dans la mare et du coup... On l'a fait.
Et donc du coup, vous avez d'abord procédé avec une enquête sur la page Facebook Agora. Et quels ont été un petit peu les résultats de cette enquête ? Qu'est-ce qui est ressorti comme
alors,
tendance ?
Alors sur 132 réponses considérées comme représentatives de la population de l'ENS, on a eu 80% de répondants qui pensaient que ce genre d'association était utile, voire nécessaire à l'ENS. Donc ce qui nous a un peu conforté dans notre entreprise. Et on a aussi reçu quelques témoignages de personnes plus vieilles nous rapportant qu'il y a 5-6 ans, c'était pas aussi cool que maintenant, qu'on avait de la chance, mais qu'il fallait quand même bouger certaines choses à l'école.
D'accord. Et alors, donc, qu'est-ce que va faire Arc-en-Ciel concrètement pendant l'année ?
Alors tout d'abord, on se bat avec la DSI pour avoir une adresse de diffusion.
Tout le monde se bat avec la DSI en ce moment, je crois.
Vous l'aurez peut-être dans 6 mois, on verra. non, dans le mois prochain, si possible. Sinon, on va organiser une fois par mois et par site des sortes de réunions où tout le monde est invité, que vous soyez homosexuel, bisexuel, trans, queer... ou hétérosexuel, cisgenre, enfin...
Donc imaginons, politique fiction, moi je suis hétérosexuel, je peux venir.
Oui, point ah, L, point E, point S. Donc oui, bien sûr, parce que c'est un débat ouvert à tous, c'est qu'à un moment, il faut aussi savoir faire circuler l'information dans l'école, et que s'il y a une certaine frange de l'école qui ne se sent pas concernée, alors que c'est un combat qui nous concerne tous... Mm. Ce serait dommage et ce serait vain. Donc ensuite, on a un projet de faire des projections de films avec invitation de personnes ayant participé à la réalisation du film deux ou trois fois dans l'année. Donc là, on a un appel d'offres. Mais également, donc pour le côté plus festif, on prépare une soirée annuelle et je garde le thème en surprise parce qu'il va être trop cool.
J'espère qu'on aura l'exclusivité du dévoilement du thème.
Ah, je sais pas. On peut...
bon, bah merci, c'est gentil.
Et sinon, pour la rentrée prochaine, on s'associe avec les Salopettes pour préparer des conférences, pour les conférences de rentrée, sur toutes les questions liées au consentement, aux discriminations liées au genre, à la sexualité.
Alors oui, là on est à la veille du départ du week-end d'intégration. Est-ce que tu veux parler, dire quelques mots sur ce que c'est que le consentement?
Oui, alors le consentement, c'est en trois mots. Savoir évaluer l'état de la personne et savoir si... elle est apte à prendre ses décisions. C'est-à-dire qu'une personne alcoolisée avec qui tu entreprends quelque chose n'est pas forcément consentante, parce qu'elle n'est pas dans l'état de prendre des décisions raisonnées. Justement pour ça, on va distribuer des petits flyers à l'entrée des bus. Si vous avez des problèmes au cours du Y, vous pouvez appeler Mégane ou moi, qui est la vice-présidente de Arc-en-Ciel et moi, président d'Arc-en-Ciel. Et également, pour le Y, on propose, en plus des préservatifs externes, ou dits masculins, qui sont présents dans vos sacs de goodies, des préservatifs internes, dits féminins.
Donc ça, c'est la première année, je crois, qu'il y a des préservatifs internes.
Oui. Et des préservatifs masculins taille L ou taille XL, parce qu'on pense à tout le monde, dans des petites boîtes en carton qui contiennent également un sachet de lubrifiant, parce qu'il faut que ça glisse.
Donc vous avez pensé à tout pour cette rentrée.
Voilà. Et aussi, on est là pour conseiller les gens s'ils ont un problème, s'ils rencontrent un certain problème vis-à-vis de leur sexualité ou de leur genre au cours du Y. On est là pour les écouter et pour discuter avec eux.
Voilà. Et donc, si je résume, finalement, Arc-en-Ciel, il y a vraiment deux pôles. Un pôle de veille un petit peu pour être au contact, discuter, être présent. Et un pôle un petit peu plus culturel sur tout ce qui concerne les sexualités, en fait.
Oui, voilà. Et on travaille pas mal avec, le laboratoire junior généré qui a fini son contrat et qui va passer sous le nom de TPG. C'est pas Transpédéguin, c'est autre chose. Mais j'ai oublié ce que c'était.
Ah, bon.
Mais c'est une référence à Transpédéguin.
Et donc on a entendu le terme queer tout à l'heure. Et je sais pas si tout le monde dans la salle est finalement au point sur ce terme. Comment on pourrait définir le terme de queer?
Alors je vais faire une petite pause historique. Queer, c'est un terme qui a émergé dans les années 90. La suite du mouvement ACT UP, un mouvement de revendication LGBT à New York, et qui veut dire littéralement en anglais tordu, en parallèle au mot straight, qui veut dire droit, et qui signifie hétérosexuel. Et en fait, queer, c'est un mouvement militant qui remet en cause en fait, la catégorisation des sexualités, donc hétérosexuel ou homosexuel, donc le modèle binaire sur lequel on fonctionne actuellement dans la société française. Et justement, c'est laisser plus de liberté aux gens pour explorer tout ce qui est question de sexualité et de genre. Et justement, considérer la sexualité et le genre comme des facettes de l'identité qui se façonnent au cours de la vie.
D'accord. Donc on comprend bien que finalement, le but d'Arc-en-Ciel, c'est aussi d'ouvrir un petit peu, d'accepter finalement toutes les sexualités qu'il peut y avoir à l'ENS. Alors comment a réagi l'administration quand ce projet est né?
Ils ont fait « Ah, c'est cool, on voit bien ENS au milieu du logo. » Donc, c'était le premier
point.
Pour
respecter la charte, la charte des noms.
Non, après, on a rencontré Barbara Wassner et Malch Cassoli, qui est déléguée aux associations à la vie associative. Elles étaient très enthousiastes vis-à-vis du projet. Et on va passer en CEVE, donc Conseil des études de la vie étudiante, en fin septembre, début octobre, devant Jean-François Pinton et Sylvie Martin pour... régler les derniers détails administratifs, mais on n'a pas eu de gros blocages vis-à-vis de l'administration. Ils ont tous été assez enthousiastes vis-à-vis du projet. Donc c'est cool.
D'accord. On sent que l'administration a un petit peu retenu aussi la leçon de tout ce qui a pu se passer l'an dernier à l'ENS sur toutes les questions liées à la politique et à ces questions-là de manière générale. Où est-ce qu'on peut vous trouver, Arc-en-Ciel? À part sur les chaînes de rentrée, est-ce que vous avez une réunion d'information
ou
une assemblée générale?
Alors, on aura une assemblée générale constitutive fin septembre. Là, Cécile, la DPMG me répond. Et sinon, dès qu'on a l'adresse mail, on la fait tourner partout. Mais donc dès que j'ai une salle, ce sera vers 20h, si possible. du coup, on invite toute personne intéressée à venir, et même celles qui sont motivées pour faire partie du bureau. Cela, pour l'instant, on est 4, mais on a le droit jusqu'à 10 personnes sur les statuts. Du coup, toute personne qui est motivée On peut rester après l'Assemblée pour discuter avec des petits gâteaux, faire des petits gâteaux et du chocolat chaud, ça va être trop bien.
Comme dans toute Assemblée Générale qui se respecte.
Ah non, on aura aussi des muffins arc-en-ciel.
Ah oui, ah oui, là il y a du niveau, effectivement, personne ne peut rivaliser.
On est très corporate, mais en attendant, sur la chaîne de rentrée, on peut prendre vos adresses mail et du coup vous serez informé directement des informations directes. Sinon, vous pouvez envoyer un message Facebook à la page arc-en-ciel. Et sinon, m'envoyer un mail à steven.wen@ns-lyon.fr vous avez peur de pas, enfin, si vous voulez pas qu'on vous voit physiquement.
D'accord, très bien. Et bien, c'est sur ça qu'on va conclure. Merci pour nous avoir présenté un petit peu Arc-en-Ciel, pour nous avoir donné toutes ces informations aussi. Donc, vous l'avez entendu, chers auditeurs, Arc-en-Ciel, c'est une association avec de beaux projets qu'on ne peut évidemment que vous en. Oui.
Et un dernier mot, ouais. On va vendre des stickers, des pins et des t-shirts trop cool.
Waouh!
Du coup, faites attention et regardez autour de vous, parce qu'on sera là.
Alors, ils seront partout. Et si ça ne vous donne pas envie de vous engager dans Arc-en-Ciel, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, il est 14h45 sur Transistor. On arrive bientôt au terme de cet en ce moment. Et on va retrouver Léo. Léo qui va parler de science dans son billet scientifique. Alors, rebonjour Léo.
Tu as
changé de casquette contre une blouse de science, n'est-ce pas?
C'est ça. Et aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler de science à proprement parler, ni de découverte, ni même être pessimiste. Oui, ça change. Enfin, j'ai quand même parlé d'un des côtés sombres de la science, d'une très grosse affaire de fraude scientifique qui est en train de secouer le monde de la biologie aux États-Unis, frappant de plein fouet l'une des meilleures universités du pays, la Duke University.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
They have finally found the Higgs boson. 2 millions de victimes de la grippe.
A major outbreak of Ebola. A death toll is rising in Nepal after a massive 7.8 magnitude earthquake struck the region.
Alors en mars 2013, la biologiste Erin Potts-Kant de l'université Duke est mise en cause dans une affaire de détournement de fonds. Est accusé d'avoir siphonné plus de 25 000 dollars à l'université pour des achats personnels sur Amazon ou Walmart, tranquillement. Elle plaide coupable et se voit infliger une amende ainsi que des travaux d'intérêt généraux. Jusque-là, rien de spécial. Sauf que l'université Duke s'est demandé si la chercheuse, pas très réglo dans la gestion des comptes, l'était aussi dans sa gestion de son travail de recherche. Bah, réponse, totalement.
Donc en fait, elle a manipulé ses publications ?
Actuellement, 15 des articles qu'elle a signés ou co-signés sont en procédure de rétractation suite à l'enquête interne de l'université. Il faut savoir, pour nos chers auditeurs, qu'une rétractation pour fraude équivaut plus ou moins à un bannissement de la recherche de la personne fautive par réputation, sans compter les sanctions qui tombent ensuite. Ses travaux sur le tissu pulmonaire n'ont pas résisté à une vérification poussée. Certaines expériences auraient été mal conduites, voire pas conduites du tout, et les données auraient été manipulées ou fabriquées de toutes pièces. Des chercheurs ont ainsi répété les expériences, et ont été dans l'incapacité de reproduire les beaux résultats significatifs qu'elle avait obtenus. Bon, ce n'est pas la première fois qu'un tel scandale arrive. En 2014, le scandale des cellules STAPS avait là aussi secoué le monde de la biologie. Une jeune chercheuse japonaise, Haruko Obatata, avait prouvé qu'il était possible de faire revenir au stade cellules souches des cellules immunitaires en les faisant passer simplement dans un bain d'acide, appelant ces dernières les cellules STAPS. Les résultats nourrissaient un très fort espoir pour ce domaine de recherche en pleine expansion, permettant de contourner l'usage d'embryons. Mais l'expérience n'a jamais pu être reproduite. La suspicion augmentant, le journal où elle avait publié, Nature, a retiré son article. L'affaire a pris une tournure tragique quelques semaines plus tard, quand son mentor fut retrouvé pendu sur son lieu de travail, l'Institut Riken.
Oui, tout de même. Et en quoi l'université est-elle touchée par le scandale? Elle s'est désolidarisée ou non?
Alors oui, l'université s'est désolidarisée vu qu'elle a mené elle-même l'enquête, mais elle se retrouve dans la panade à cause d'une loi américaine, le False Claims Act. Cette loi fédérale américaine permet à un particulier comme toi, Clément, ou moi, d'attaquer au nom de l'État une entreprise privée ayant reçu et mal employé des fonds publics. Or ici, Duke est une université privée et elle a reçu de nombreux fonds fédéraux sur la base des articles de Erin Potts-Kant, fonds qui lui ont permis de publier d'autres articles, etc., etc. Au total, ce sont plus de 200 millions de dollars qui auraient été attribués sur la base des articles frauduleux et, si l'université est reconnue pour coupable, elle pourrait être condamnée à verser plus de 3 fois les montants indûment perçus, ceci bien sûr si quelqu'un se porte partie civile au nom de l'État.
Et c'est le cas ?
Gagné ! Un des chercheurs appartenant au labo de Potts-Kant, Joseph Thomas, a déposé un document de 70 pages à charge contre l'université, l'accusant d'avoir été au courant du scandale et de l'avoir étouffé pour continuer à toucher les fonds fédéraux. N'y voyez pas une action purement éthique là-dedans. Sachez que le False Claims Act
accorde à celui qui porte plainte pour l'État jusqu'à 30% de la somme injustement délivrée. Thomas pourrait ainsi empocher 180 millions de dollars si la peine maximale est infligée à Duke. Jackpot. Le marathon judiciaire ne fait toutefois que commencer, et Thomas doit encore prouver les charges dont il accuse Duke. Mais un verdict en défaveur de cette dernière risque de changer profondément aux États-Unis la méthode d'attribution des fonds pour la recherche, et par ricochet, dans le monde entier.
Alors merci Léo, affaire à suivre donc. Et alors après ce billet scientifique, on va finir en douceur, c'est en ce moment, et on va réécouter Nicolas. Nicolas qui est le spécialiste des éphémérides, et il va vous le prouver. Est-ce que ça va Nicolas depuis tout à l'heure ?
Finir en douceur, tu dis ? Moi, autant vous l'annoncer d'emblée, je suis pas content du tout.
D'accord.
L'autre jour, on me dit « Qui veut faire une éphéméride ?» Alors je dis « Moi ». Ensuite, on me dit « Au fait, qui fait l'éphéméride ?» Je redis « Moi ». Pas plus tard qu'hier, une dame âgée dans la rue Marette me demande d'une voix chevrotante « C'est vous qui faites l'éphéméride de Transistor pour son live de rentrée demain ?» Alors, excédé, je réponds « Oui » et je la pousse dans le caniveau, ça lui apprendra. Et la télé, la radio, éphéméride par-ci, éphéméride par-là. Mais je vous ai pas dit le pire. Tout le monde s'entête à me dire qu'on est le jeudi 8 septembre. Même vous, là, depuis le début du live. Alors que c'est le jour de l'an.
Quoi ? Pardon ? Enfin, je sais que c'est mon anniversaire et qu'à ce titre, ça mérite d'être fêté d'une manière un peu particulière, mais quand même.
Mais non, on est dimanche.
Pourquoi ?
Première absolue du calendrier pataphysique. Et donc, on commémore la nativité d'Alfred Jarry, qui est l'auteur du Burroi, mais aussi des gestes et opinions du docteur Faustrol, pataphysicien, dans lequel il a inventé un calendrier bien plus raisonnable que le nôtre, avec 13 mois, où tous les premiers du mois sont des dimanches, ce qui permet de rendre tous les 13 des vendredis. Du coup, la malédiction du vendredi 13 n'a plus qu'à se rhabiller, puis éventuellement aller faire des courses ou juste prendre l'air, parce que rester à végéter sur son canapé plusieurs jours, c'est pas forcément très sain. Et du coup, bonne année 144. Bon. Un peu de sérieux.
Peut-être, oui.
Qui en fait aujourd'hui ? Manifestement, Saint Adrien. Alors pour l'instant, pas de prénom ridicule, pas de redoublement de consonne, je suis déçu et en colère. Mais je lis juste en dessous, Adrien de Nicomédie, ou Adrianus, officier dans les armées impériales, martyr à Nicomédie, en Bithynie avec son épouse Nathalie et ses 24 compagnons sous Maximien. Sérieusement ? On canonise des gens. Enfin, je veux dire, sérieusement, son épouse Nathalie et ses 24 compagnons sous Maximien. On canonise des gens pour avoir accepté, stoïquement, l'union libertine de leur femme avec 24 compagnons et un empereur à tendance dominante. Je ne sais pas quel pape a pris cette décision, mais il devrait en avoir gros. Et en parlant de pape, on fête le décès de Clément III, antipape. Il a dû rencontrer un pape dans la rue et boum, plus de Clément III. Les scientifiques dans la salle auront compris la blague. On fête également d'autres saints. Alors d'abord sainte Béline, martyre de la virginité. C'est une très belle et très poétique façon de dire qu'elle était aussi malchanceuse en amour qu'en choix du prénom par les parents. Et également sainte Séraphine, de son vrai nom Sveva da Montefeltro. Elle eut toute sa vie des problèmes pour engager la conversation, démonstration. Bonjour, ça va ? Oui, et toi, comment ça va ? Etc, etc. Voilà. On fête la naissance de plusieurs artistes qui n'ont pas tous la même renommée. D'abord, Jean-Félix Lalanne, frère inconnu de Francis, probablement meilleur chanteur parce que sinon, aïe aïe aïe. La naissance de Pink également, elle dont le nom permet de lancer des beatbox de qualité. Et enfin, Gustav Schaffer, désolé pour mon accent allemand, batteur de Tokyo Hotel. Oui, vous aussi, vous aviez oublié l'existence de ce groupe. Bon, comme je suis quelqu'un de gentil et raisonnable, je ne vous passe pas un extrait. Je retourne plutôt jeter des gens dans le caniveau.
Bon après-midi, très productif donc. Et bonne année pataphysique, bon début d'année pataphysique à tous. Et merci Nicolas. Et parce que la rentrée est chargée, chers auditeurs, vous méritez aujourd'hui d'avoir une seconde météo, mais une seconde météo pour laquelle on va retrouver Baptiste.
Seigneur météo, on nous dit qu'il fait beau. Seigneur météo, oh là là, quel frigo. Seigneur météo, on nomme Francisco, Esperanza, Calor, il a tort.
Rebonjour à tous, j'espère que tout le monde va toujours bien. Bon, j'avoue que la météo n'a pas vraiment changé depuis tout à l'heure. Mais Madame Soleil l'a tellement bien présenté que je vais changer d'idée Et j'espère que tout le monde a bien écouté l'interview de Steven pour sa magnifique association, puisque j'ai décidé de remettre une couche sur les arcs-en-ciel, ces magnifiques arcs dans le ciel. Alors c'est parti pour l'arc en quiz. Attendez la fin de ma réponse pour répondre par contre, s'il vous plaît. Top, je suis une messagère grecque, fille de Thomas et de l'Océanide Électre, toujours assise auprès du trône d'Héra. Bien qu'étant la sœur des Harpies, je suis beaucoup plus appréciée des dieux et souvent représentée sous la forme d'une gracieuse jeune fille. Je suis la déesse grecque de l'arc-en-ciel, je suis... Avec quel entrain ?
Iris ?
Oui. Top, je suis une série de jeux vidéo, plus précisément un spin-off créé par Shigeru Miyamoto en 1992. Je suis un jeu de course destiné majoritairement à être multijoueur et je suis particulièrement apprécié grâce aux nombreux objets pouvant être utilisés pour franchir la ligne d'arrivée. Banane, carapace ou carrément bombe peuvent être utilisés pour déstabiliser les autres concurrents, pas comme dans la vraie vie, parmi lesquels on peut retrouver Peach, Yoshi ou encore Luigi. Ma course réputée comme étant infaisable et qui a brisé de nombreuses amitiés s'appelant la route arc-en-ciel, je suis...
Oui. Bravo, là c'est bien.
Vous commencez à connaître vos leçons. Top, je suis une créature mythologique humanoïde. Je suis souvent solitaire, ma principale activité est de fabriquer et de réparer des chaussures. On me représente souvent comme un homme barbu de petite taille, habillé en vert, prêt à tout pour conserver mon argent que je garde dans une marmite. D'après la culture irlandaise, on pourrait trouver cette marmite remplie d'or au pied d'un arc-en-ciel.
Le Leprechaun.
Mais oui, quelle bonne idée. L'arc-en-ciel d'or, pardon, revient donc à Clément parce que c'est mon boss. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Bisous les loulous.
Merci Baptiste. Alors, c'est à Météo qui a eu la chance d'être la dernière chronique de cet En ce moment. Et bien évidemment, l'enregistrement n'est pas fini. Vous allez avoir un aperçu durant la prochaine heure des émissions de Transistor. Avant cela, quelques dates importantes tout de même. Le 21 septembre à 20h aura lieu notre réunion d'information, lors de laquelle nous vous présenterons le fonctionnement et les activités de l'association. Nous serons là aussi pour vous rencontrer et discuter avec vous de vos envies. Une semaine plus tard, le 28 septembre, toujours à 20h, ce sera l'Assemblée Générale de Transistor, au cours de laquelle sera renouvelé le bureau de l'association. Toutes les informations sont sur les flyers que nous vous avons distribués. On ne manquera pas de vous tenir informés de toutes ces échéances, ne vous inquiétez pas. Pour l'heure, moi je me tais, je vais vous retrouver à 15h45 dans Transistorien, et je vais laisser mon siège à Rémi et son équipe pour des toiles plein les yeux.